Les par actualités. Bonjour à vous toutes et vous tous, je suis ravie de vous retrouver en ce premier jour d'été avec ici sur Montréal en tout cas un ciel très, mais alors très menaçant. J'ai rarement vu autant de gris foncé dans nos cieux, mais bon, croisons-nous les doigts pour ce premier jour d'été. Et puis passons tout de suite aux paractualités, si vous le voulez bien, avec les titres du jour. La ministre du Tourisme du Québec signe la déclaration « Un monde pour tous ». Naviguer sur le web quand on est non-voyant. Il y aura une première entrevue dans quelques minutes avec Madame Marie-Lison Fougère, sous-ministre à l'accessibilité aux affaires francophones et aux affaires des personnes âgées du gouvernement de l'Ontario. Également à l'émission aujourd'hui, test prénatal révolutionnaire, semble-t-il, offert à Québec. Et puis de l'autre côté, à Lévis, l'atelier occupationnel Rive-Sud va s'agrandir. Une entrevue également avec Annick Larose, directrice générale de l'Association du Québec pour l'intégration sociale, autrement dit l'AQUIS. Et deux autres sujets. Accueillir la démence à bras ouverts, ça c'est un concept japonais qui s'exporte en ce moment au Canada. Et puis nous parlerons du projet H. Il s'agit de sensibilisation au handicap dans une école française. Alors, Kéroul salue le leadership de la ministre du Tourisme du Québec et ministre responsable de la région de la Mauricie, Madame Julie Boulet, qui a signé la déclaration « Un monde pour tous » vivant à favoriser un tourisme inclusif. Cet engagement de la ministre intervient pendant la semaine québécoise des personnes handicapées, j'aurais peut-être dû dire intervenait, et après qu'une enveloppe de 5 millions de dollars ait été annoncée pour favoriser l'accessibilité des établissements touristiques aux personnes handicapées. La déclaration énumère 40 mesures précises afin de mettre en œuvre les recommandations de l'Organisation mondiale du tourisme, l'OMT, en faveur d'un tourisme accessible à tous. Ces recommandations s'adressent aux entreprises de tourisme, voyage et transport, ainsi qu'aux autorités locales, nationales et internationales. Parmi les mesures que la déclaration recommande aux autorités nationales, notons celle-ci, inciter les institutions d'enseignement à intégrer des formations sur l'accueil de tous visiteurs, ainsi que sur l'accessibilité du cadre bâti. Favoriser la formation des employés de première ligne des secteurs du voyage et du tourisme sur l'accueil et le service aux clients en situation de handicap. Recommander aux établissements offrant des produits ou services, fournisseurs de services de transport compris, de procéder à un examen de leur accès et de leurs prestations de services à la clientèle handicapée et à celles nécessitant des conditions d'accès spécifiques afin d'éliminer tout obstacle physique et de faciliter la prestation de services pour cette clientèle. Et enfin, adopter des mesures fiscales afin d'inciter les propriétaires des établissements existants et les entreprises privées de transport à faire les travaux requis pour rendre leurs établissements et leurs services accessibles. Faire son épicerie en ligne, vérifier son compte chèque et même regarder un horaire d'autobus, ce sont des gestes quotidiens que l'on effectue sur Internet sans même y réfléchir. Pourtant, la réalité est tout autre pour les personnes aveugles. Les non-voyants prennent des heures à naviguer sur le web, mal adaptées à leurs conditions. C'est d'après un texte de Marion Bérubé. Marc Robidoux est non-voyant depuis sa naissance. L'homme de 28 ans navigue sur Internet depuis plus de 10 ans. Mais chaque visite est une aventure en soi. Toi, tu vas rentrer sur un site web et tu vas voir tout de suite la date, la personne qui l'a fait. Tu vas voir si le site a de l'allure ou pas. Nous, non, révèle-t-il, installé dans son appartement. L'étudiant à l'Université de Sherbrooke commencera bientôt sa maîtrise en travail social. Avec l'aide de son clavier régulier et de son clavier braille, Marc navigue sur Internet tous les jours, mais chaque nouveau site est une aventure. Lorsqu'il entre sur une page web, l'étudiant doit la parcourir de fond en comble grâce à un logiciel qui lit tout ce qui apparaît à l'écran, une démarche qui rappelle parfois les 12 travaux d'Astérix. Marc Robidoux, de son côté, préfère utiliser son téléphone cellulaire lorsqu'un site Internet lui fait défaut. Le téléphone lui simplifie parfois la tâche, comme pour réserver un transport adapté auprès de la STS ou simplement pour vérifier son compte chèque. Le gouvernement du Québec a mis sur pied des normes d'accessibilité du web en 2011 pour rendre toutes les pages web de ses ministères accessibles, une politique qui est désormais désuète selon le regroupement des aveugles et amblyopes du Québec, le RAC. Le gouvernement devait réviser les normes en 2016, mais ce n'est toujours pas fait, On souhaiterait que ces normes, qui actuellement ne s'appliquent qu'au ministère et aux organismes majeurs, puissent s'appliquer au réseau de l'éducation et aux municipalités, ajoute Jean-Marie Damour. Nous parlons souvent à cette émission de ce qui se passe au gouvernement québécois et aussi de tous ces échanges entre la communauté des personnes handicapées et les organismes qui les représentent et le gouvernement québécois. Mais il se passe aussi beaucoup de choses, par exemple, en Ontario. Et pour nous en parler aujourd'hui, je voudrais m'entretenir tout de suite avec Marie-Lison Fougère. Bonjour, Madame Fougère.
Bonjour.
Madame Fougère, vous êtes sous-ministre à l'accessibilité, aux affaires francophones et aux affaires des personnes âgées du gouvernement de l'Ontario. C'est bien ça?
Oui, oui, c'est exact.
Merci, merci beaucoup d'avoir pris contact avec nous ce matin, tel que promis. Nous allons parler ensemble, si vous le voulez bien, de cette stratégie d'emploi que le gouvernement ontarien a mis sur pied au début du mois de juin, ou du moins a présenté au début du mois de juin. Quel est le contexte qui a fait que vous en êtes venue à cette conclusion qu'il fallait créer ce programme, Madame Fougère?
Écoutez, vous n'êtes probablement pas sans savoir que l'Ontario, depuis 2005, en fait, a une loi qui régit les droits des personnes handicapées à plusieurs niveaux. Mm-hmm. Et dans le prolongement, si vous voulez, du cadre législatif qui a été mis sur pied il y a quelques années, le gouvernement de l'Ontario a quand même fait l'objet de beaucoup de représentations de la part d'organismes, de la part aussi d'employeurs, mm-hmm. qui, en fait, on réclame depuis quelque temps, une attention particulière au monde de l'emploi. Dans le cadre législatif qui existe, il y a déjà une norme, il y a un règlement qui existe et qui encadre les mesures, ou du moins qui encadre les employeurs en ce qui a trait à ce qu'ils doivent fournir comme service et comment est-ce qu'ils doivent procéder pour finalement éliminer les obstacles. À l'emploi, mais le gouvernement en est venu à la conclusion qu'il fallait vraiment y aller de façon beaucoup plus proactive.
Alors, autrement dit, ce que vous êtes en train de nous dire, Madame Fougère, et pardon de vous interrompre, qu'il y a encore un taux d'emploi beaucoup plus faible chez les personnes handicapées en Ontario qu'au Québec.
Oui, ben en fait, le taux d'emploi, ça c'est selon les statistiques Statistique Canada, on est à peu près, on dit 16% en fait de 16% de chômage pour les personnes handicapées, mais on soupçonne en fait que cette statistique varie beaucoup selon la nature des handicaps, selon l'âge et selon aussi la sévérité de l'handicap. Et on sait que en fait, même chez les jeunes, et il y a de plus en plus de jeunes qui, en fait, obtiennent des diplômes universitaires ou collégiaux. Et, en fait, même le taux d'emploi de ces jeunes ou le taux de chômage de ces jeunes ou de sous-emploi de ces jeunes est encore plus élevé que chez les jeunes qui n'ont pas d'handicap. Alors, évidemment, oui, il y a une réalité sur le terrain et on sait très, très bien que pour favoriser l'insertion sociale et économique au maximum, ça passe par l'emploi.
Alors, de façon concrète, en quoi va consister ce programme? Qu'est-ce que vous allez réclamer, entre guillemets? Qu'est-ce que vous allez imposer un peu plus aux entreprises?
Bien, en fait, la stratégie, étant donné que le cadre législatif, quand même, impose certaines responsabilités auprès des employeurs. La stratégie d'emploi, à ce stade-ci, elle est beaucoup plus, on cherche beaucoup plus à travailler de façon très, très proactive avec les employeurs pour en arriver justement à ouvrir des portes pour l'emploi de beaucoup plus de personnes handicapées. Alors, par exemple, une des mesures que l'on va prendre très, très rapidement, c'est qu'on est en train de mettre sur pied une table de concertation avec des employeurs petites, moyennes et grandes entreprises pour mobiliser finalement les employeurs à savoir quoi faire pour maximiser le nombre d'employés. Il y a aussi un appel qui a été lancé aux employeurs à savoir d'augmenter, c'est un peu un appel défi qui est lancé aux employeurs, à savoir si chaque employeur en Ontario de plus de 20 employés embauchait une personne handicapée de plus, ben déjà, on aurait 56 000 de plus de personnes handicapées, 30 % d'augmentation. Alors, il y a vraiment tout un effet mobilisation de la part, de la part du gouvernement, mais pour travailler avec les employeurs. Ça, c'est de un. Mais
allez-y.
Oui, de deux, on a évidemment, on va prendre des mesures. Il y a des mesures très précises qui vont être prises, à savoir le mentorat d'employés qui sont déjà en milieu de travail, le mentorat d'étudiants qui sont soit dans les universités ou dans les collèges et qui, au sortir, cherchent un emploi. Expérience de travail, on va multiplier finalement les interventions d'expérience de travail de façon à ce que justement les jeunes avec handicap puissent finalement avoir accès à des employeurs et que les employeurs aussi aient accès à ces travailleurs-là parce qu'en fait les employeurs se plaignent très souvent d'un manque d'employés avec les compétences nécessaires pour ce qu'ils recherchent.
Oui, parce que sans compter que souvent, madame, et je pense que madame Fougère, vous allez être d'accord avec moi, mais souvent en plus, les personnes handicapées sont des gens qui sont très fiables. Je veux dire, on sait qu'une fois qu'on les a engagés, ce sont rarement des gens, ils sont tellement contents d'avoir trouvé un emploi que ce sont des gens très stables.
En fait, c'est ce qu'on dit. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que vous mettez le doigt sur certains mythes qui existent. Et ça, c'est un mythe, évidemment. On se dit très souvent, avec les personnes handicapées, peut-être que le taux d'absentéisme serait plus élevé. Pas du tout.
Pas du tout.
En fait, c'est le contraire, beaucoup plus fiable. Un taux d'absentéisme, en fait, très inférieur à la moyenne. Un taux de productivité extrêmement élevé de la part, et ça, c'est de la part d'employeurs qui témoignent finalement de la productivité des personnes qui sont à leur emploi. Alors, je pense qu'il y a toute une gamme de mythes. Et c'est là où on a quand même aussi toute une stratégie d'éducation publique beaucoup plus proactive pour finalement aussi un peu débusquer les mythes et contrer tous les mythes qui existent. Par exemple, en matière d'accommodement raisonnable, on a souvent l'impression que ça coûte très cher. En fait, en général, ce n'est pas très, très cher. Il y a des cas un peu plus, il y a des cas de personnes handicapées qui ont peut-être besoin un peu plus d'aide, mais en général, en fait, c'est très abordable. Bon. Et le retour, l'investissement qu'on fait et la rentabilité, en fait, il y a des employeurs qui nous disent carrément, la rentabilité de personnes handicapées en milieu de travail, elle est extrêmement élevée.
Madame Fougère, le temps coule, évidemment, court d'ailleurs, devrais-je dire. Deux toutes petites questions avec deux tout petites réponses, si c'est possible, d'accord? Si un employeur vous dit, écoutez, nous, on veut bien employer plus de personnes handicapées, mais on n'est pas équipé pour ça, on n'a pas, par exemple, on n'a pas d'ascenseur, on n'a pas... Est-ce que le gouvernement peut s'engager à les aider matériellement, je veux dire, de façon architecturale, pour leur donner de l'argent pour pouvoir, par exemple, installer un ascenseur?
Oui, à l'heure actuelle, il y a en fait tous les employeurs à l'heure actuelle ou la grande majorité des employeurs sont
accessible.
Sont obligés de rendre en fait leur espace accessible. Alors pour le moment, il n'y a pas vraiment de programme de. C'est-à-dire que par le biais de certains programmes d'infrastructure, mais ce n'est pas quelque chose qui est absolument nécessaire parce qu'on a. Écoutez, ça fait depuis 2005 que la loi est en vigueur et en fait, les employeurs doivent en général, la grande majorité des employeurs doivent finalement se conformer. Et c'est sûr que dans la planification de tout ça, il faut tenir compte des besoins des personnes handicapées. Et comme vous le savez, madame, quand on rend un espace plus accessible, ça sert à tout le monde et ça sert à toute la clientèle.
Absolument. Et ma dernière question est, au gouvernement même, en Ontario, est-ce que vous employez beaucoup de personnes handicapées et pensez-vous même augmenter ce nombre?
Oui, en fait, à l'heure actuelle, le gouvernement de l'Ontario, on est le pourcentage de personnes handicapées à notre emploi, selon nos statistiques, on est à environ, ça varie entre 12 et 14 %. On est à 14 % environ cette année. Et c'est beaucoup plus élevé que la moyenne. Est-ce qu'on veut en faire plus? Absolument. D'ailleurs, on a un plan pluriannuel qui vise justement l'insertion des personnes handicapées et l'accessibilité et l'emploi de plus de personnes handicapées est quelque chose que le gouvernement veut absolument veut faire absolument avancer le dossier de l'emploi au sein du gouvernement. Le gouvernement est déjà quand même un chef de file, mais on doit en faire davantage, et même dans nos politiques, que ce soit nos politiques d'achat, de services publics, oui, et tout et tout, on veut insérer de plus en plus des mesures qui finalement amènent les gens avec lesquels on fait affaire, les amènent finalement à insérer dans tout leur plan.
Et ça vous honore, madame.
Pour les personnes handicapées.
Ça vous honore, madame Fougère, Marie-Lison Fougère. Je vous remercie beaucoup. Je rappelle que vous êtes sous-ministre à l'accessibilité, aux affaires francophones et aux affaires des personnes âgées du gouvernement de l'Ontario. J'ai été ravie de pouvoir discuter avec vous ce matin.
Et merci de votre intérêt.
Mais je vous en prie, bonne journée, madame.
Au revoir.
Un test prénatal révolutionnaire offert à Québec. Il s'agit d'une clinique privée qui propose le test Optimo, qui est d'une précision inégalée dès le début de la grossesse, nous dit Joanne Roy dans le Journal de Québec. La clinique privée OVO, OVO offre désormais à Québec le test prénatal Optimo, qui permet le dépistage de la trisomie 21 dès le début de la grossesse, et ce, avec une précision inégalée. Dans les 10 dernières années, il y a eu beaucoup d'avancées au niveau du dépistage prénatal, incluant l'échographie, les marqueurs sanguins chez la femme et l'étude de l'ADN fœtal dans le sang de la mère. Optimo est la combinaison de ces technologies en un seul test. C'est révolutionnaire pour la pratique médicale, signale le docteur Emmanuel Bugeaud, chercheur spécialisé dans le domaine au Centre de recherche du CHU de Québec. Avantage indéniable, selon le docteur Bugeaud, ce test peut être fait au premier trimestre de grossesse comparativement aux autres tests de dépistage pour lesquels il faut attendre à la mi-grossesse. Le test Optimo consiste en une échographie couverte par le régime public et une prise de sang. Des coûts de $395 sont exigés pour les analyses sanguines. Optimo offre un taux de détection de 98% pour la trisomie 21 avant la fin du troisième mois de grossesse, en plus du dépistage de la trisomie 13 et 18, ce qui évite à la future maman d'angoisser jusqu'à la 20e semaine de grossesse, souligne le docteur Bugeaud. Les résultats sont transmis à la future mère par courriel en 3 jours ouvrables et un rapport est acheminé à son médecin. Le test Optima peut détecter les principales anomalies chromosomiques présentes dès le début de la grossesse. Il permet aussi de déceler d'autres anomalies, comme les malformations cardiaques graves. Et je vais maintenant m'entretenir avec Annick Larose, directrice générale de l'Association du Québec pour l'intégration sociale. Bonjour Annick.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, le regroupement pour la trisomie 21, dont je viens d'ailleurs de parler, je ne sais pas si vous avez entendu cette nouvelle.
C'est un sujet qui est extrêmement sensible pour
oui.
nous. Oui,
on ne sait pas s'il faut se réjouir. Hein?
Oui, disons que ça soulève des enjeux éthiques oui. qui seraient intéressants et importants de soulever.
Ce n'est même pas par hasard si j'ai lu ce papier-là avant de vous parler. Bon, ben, vous savez, je dois avoir une réserve journalistique, mais
oui,
comme c'est une nouvelle, c'est normal que je la partage, mais je serais effectivement très intéressée un jour qu'on puisse organiser, peut-être ici même à Canalem, un débat sur le sujet.
Vous m'invitez et c'est certain que je serai des vôtres.
Parfait, Madame Larose. Oui. Alors, on note ça. Mais là, on va parler d'autre chose. Il y a, bon, donc on sait que le regroupement pour la trisomie 21 et la KIS, on le sait parce qu'on en a parlé ici, ont lancé une pétition demandant un rehaussement des budgets et des services en déficience intellectuelle. Bon, ça veut dire que selon vous, les coupures effectuées évidemment par le gouvernement ont affecté directement ces personnes et leurs familles, c'est
oui,
bien ça?
Oui, je vous dirais que c'est sûr que c'est, on est préoccupé mm-hmm. depuis un certain nombre d'années, je vous dirais, c'est pas nouveau et c'est pas uniquement depuis la réorganisation 2015, c'est même depuis le début des années 2000 où il y a eu une approche, je dirais, puis encore une fois, je veux être très très clair, on ne veut pas non plus militer. On est conscient qu'il y a différents, beaucoup de besoins puis on est très conscient aussi du contexte. Mais au niveau de la déficience intellectuelle, dans les dernières années, il y a eu, beaucoup d'attention qui ont été mis sur des clientèles qui semblaient émergentes.
Oui.
Donc au niveau de l'autisme, et on reconnaît
oui.
également beaucoup les besoins des
Bien
personnes
sûr.
Autistes. On ne remet pas ça en question
non,
aucunement,
c'est clair.
Jamais. Sauf que ce qu'on dit dit, c'est qu'à des besoins similaires, il devrait y avoir une réponse similaire.
Ben oui.
On sait que le 21 mars dernier, le gouvernement a annoncé en grande pompe un plan d'action sur l'autisme qui venait d'un forum avec un investissement quand même assez important d'argent. Et on se réjouit de ça, mais on se dit il y a des besoins. En tout cas, la ministre à cette conférence de presse-là nommait quelques besoins et on a en tout point la déficience intellectuelle quand on parle des inquiétudes des parents qui vieillissent par rapport à leur enfant.
Mais oui.
C'est des situations tout à fait similaires.
Exactement.
Au niveau de socio-professionnel, qu'est-ce qui arrive après 21 ans.
Ben oui. Et c'est terrible, Madame Larose, parce que en vous écoutant parler, et je vais dire quelque chose d'assez gros, mais je trouve que c'est la réalité, on a l'impression que l'autisme, et encore une fois, j'y mets des gros bémols, et je comprends moi aussi toutes les réalités, mais on a l'impression que pour le gouvernement, l'autisme, c'est la maladie, entre guillemets, à la mode.
Bien, il y a un peu de ça. En même temps, moi, je dois dire aussi que le milieu de l'autisme, c'est très bien organisé.
Oui,
a
sûrement.
A très bien fait valoir son point de vue, a été très présent, a fait beaucoup de pression, ainsi de suite. Et il faut dire aussi que c'est un courant mondial. Hein. C'est pas uniquement au Québec qui a ces préoccupations-là.
Oui.
Et il y avait un rattrapage à faire. Donc, je pense qu'il ne faut pas le nier. Puis je pense qu'il travaille très bien. Et même la ministre, lors de l'étude des crédits, a mentionné, vous savez, les parents d'enfants autistes, on se sont fait entendre.
Oui.
Donc, je pense qu'il est l'heure que les parents de personnes qui ont une déficience intellectuelle puissent se faire entendre. Et c'est sûr que pour beaucoup, plusieurs craignent de se faire couper les services qu'ils ont. C'est sûr que quand on est dans un mode de revendication, ça demande une énergie que quand on est déjà pris avec le quotidien, ben c'est plus difficile. Donc, mais je pense qu'il faut se faire entendre. Je pense que le momentum est bon.
Est bon, oui.
Mais c'est certain qu'il y a il y a eu une volonté politique de faire avancer l'autisme. Donc, ça prouve que quand il y a une volonté politique, il y a des choses qui peuvent
avancer. Bien sûr. Mais je voudrais qu'on revienne à la trisomie 21, Annick Larose. S'il devait y avoir une augmentation, ça répondrait en premier lieu à quel besoin?
Bien, je vous dirais que ce n'est pas uniquement pour la trisomie 21.
Bon.
C'est sûr que nous, on a travaillé avec le regroupement, c'est sûr qu'on comprend, mais je vous dirais que c'est plus largement que
c'est vrai que vous...
Moi, je m'associe beaucoup à la trisomie parce que j'ai moi-même une fille trisomique, mais je vous dirais que nous, on ratisse plus large que ça.
C'est ça.
Mais je vous dirais, de manière très concrète, nous, ce qu'on souhaite avoir, c'est que premièrement, qu'il y ait un plan d'action, que ce ne soit pas uniquement un réinvestissement d'argent, mais qu'il y ait une réflexion qui soit faite. Et je vous dirais, sur des sujets qui sont très, très, je vous dirais, préoccupants, je regarde juste tout le dossier de l'intervention ou de la stimulation précoce. L'iniquité qui existe entre un enfant qui a un diagnostic d'autisme versus un diagnostic de déficience intellectuelle, c'est assez incroyable.
Oui, hein?
Donc, je pense qu'il y a cet aspect-là. C'est sûr que tout le continuum qui n'existe pas ou le trou après 21 ans, c'est exactement les mêmes enjeux qu'au niveau de l'autisme, mais ça, il va falloir s'y attarder également. Et en ce moment, ce qu'on est préoccupé beaucoup aussi, c'est toutes les... parce qu'il y a eu beaucoup de... C'est la façon même qu'on réfléchit le support donné à la déficience intellectuelle. On est dans une logique d'épisode de soins qui est très calquée sur le modèle médical et qui n'a pas de raison d'être, à notre avis, au niveau de la déficience intellectuelle. Donc, on comprend qu'au niveau de la réponse spécialisée, qu'on peut avoir des épisodes, sauf qu'il ne faut pas oublier qu'il faut toujours avoir une trame, d'une ligne, toujours pareille, continue pour soutenir une personne qui a une déficience intellectuelle toute sa vie. Parce que si on enlève cette ligne de soutien-là, c'est à moi l'image que je donne toujours, c'est comme d'enlever une chaise roulante à quelqu'un qui n'est pas capable de marcher.
Oui,
donc,
quelle image,
c'est de l'empêcher de pouvoir avoir une participation sociale et c'est également de mettre beaucoup de pression sur la famille qui doit toujours se batailler pour pouvoir avoir des miettes. Et c'est sûr que c'est aussi en termes de nombre de services, à quantité de services, mais c'est également au niveau de la qualité du service qu'on revendique.
Oui. Alors, Madame Larose, je vais être obligée de vous interrompre, mais je voudrais que l'on revienne sur cette pétition. Il faut que les gens signent cette pétition.
C'est assez facile d'accès. C'est une pétition qui est sur le site de l'Assemblée nationale, mais si les gens écrivent « j'appuie l'ADI.ca. Ils tombent directement sur la pétition.
J'appuie l'ADI.ca.
D'accord. Et on signe et c'est jusqu'au 6 septembre.
D'accord.
Je vous dirais que c'est une première action que nous souhaitons et nous allons intensifier notre volonté de mobilisation du milieu, des parents, également des gens qui travaillent auprès des personnes qui ont une déficience intellectuelle et qui nous disent parfois un mot couvert parce qu'il y a comme une espèce d'omerta dans le milieu, malheureusement, qui a vraiment un malaise par rapport à ça et qu'il faut le nommer puis il faut essayer de se faire entendre et que le gouvernement puisse enfin considérer, je vous dirais, nos jeunes, nos enfants et qu'ils puissent voir autant que nous, on voit le potentiel de ces personnes-là et les soutenir.
Bravo, Madame Larose. On vous a bien entendu. Je voudrais aussi préciser que le lien vers la pétition sera également dans le post de l'émission Par Actualité aujourd'hui.
Je l'apprécie beaucoup.
Mais je vous en prie, Annick, donc, si vous allez sur Canal M aussi, vous allez trouver ça très facilement. Annick Larose, c'est toujours un plaisir de vous parler, mais ça l'est un petit peu moins de voir que les choses stagnent un petit peu, mais on va se croiser les doigts pour vous.
Oui, puis il faut continuer à travailler. C'est certain, la ferveur est là parce qu'on y croit.
D'accord.
Merci.
Au plaisir, Annick, au plaisir. Au revoir. Accueillir la démence à bras ouverts, c'est un concept japonais qui s'exporte au Canada. Les jeunes de l'école Rondon à Calgary participent à un projet pilote pour rendre un quartier de la métropole plus accueillant envers les personnes âgées atteintes de démence. Alors devant l'école privée Rondon de Calgary, une dizaine d'élèves vêtus de leur uniforme bordeaux et noir attendent nerveusement des invités bien spéciaux, c'est qu'elles accueillent pour le thé une douzaine d'aînés de la résidence pour personnes âgées Wentworth Manor de Calgary. À la barrière de l'âge et de l'inconnu s'ajoute une autre qui est invisible, c'est que la majorité de leurs invités sont atteints de démence. C'est d'après un texte de Tiffany Roquette. Cette rencontre de deux générations marque le début d'un projet pilote pour faire de cette école et du quartier West Hills de Calgary un modèle de communauté amie des personnes atteintes de démence. Le concept, plus connu sous son terme anglais de Dementia Friendly, est né au Japon et s'est popularisé au Royaume-Uni. En novembre 2016, le comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de technologie le citait comme un des exemples à suivre pour améliorer le traitement des personnes atteintes de démence. Son implantation est parfois très lente au Canada. Toutefois, la fondation Brenda Stratford a décidé de tester le modèle dans le quartier West Hills de Calgary et à Okotox, juste au sud de la métropole, parce que les besoins sont là, selon Madame Richardson. Pour lutter contre la stigmatisation, la fondation Brenda Stratford a commencé par sensibiliser les jeunes et lancer ce partenariat avec l'école privée. Alors, cette première initiative va donner lieu à un partenariat l'année prochaine qui va s'inspirer de leçons d'éducation conçues au Royaume-Uni. Cet établissement veut inclure la démence dans le programme scolaire en l'adaptant aux différentes années. Ainsi, les élèves de primaire commenceront avec des patients à faible niveau de démence et les feront participer à des projets artistiques et de musique. Voilà, c'est sur cette bonne nouvelle que se concluent les Par Actualités du jour. C'était Clotilde Seille qui vous souhaite une bonne journée. À demain, 11h30.